Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Il était jeune et ambitieux, issu d'une famille plus modeste. Ils se sont mariés. Elle, qui s'attendait à voir un mariage de poupée, a dû être déçue et surprise. Le prince charmant a dû avoir des exigences qu'elle ne comprenait pas et ne savait pas. Elle était très en retard pour son âge. Il lui demande « Mais comment savez-vous autant de choses sur votre mère ?» Elle lui dit « Tout d'abord, il suffisait de la voir. » De l'entendre parler et les discussions qu'elle avait avec sa mère. Ma mère était une personne tout à fait fragile, délicate, malheureuse. Le mariage a dû la surprendre et la désaxer, la désorienter. Il lui demande. Et pour votre père, elle lui dit. Pour lui, c'était pas la même chose. Il avait sa vie hors de la maison. Lorsque je suis né, elle a voulu m'éduquer comme elle. Mais j'étais d'un autre caractère. J'étais espiègle. Je voulais tout connaître. Ma mère est morte sans comprendre ma fougue. Elle est morte d'un arrêt du corps, d'un coup. Et mon père est parti en Amérique du Sud, au Chili. Je ne l'ai plus revu. Il paraît qu'il s'est marié avec la fille ou la petite fille de l'ancien président de la République française qui est parti se réfugier là-bas. Et il lui demande, votre mère est morte il y a longtemps de ça? Elle lui dit, il y a 5 ans de ça. Mes études n'étaient pas finies, mais comme j'étais majeur, j'ai pu me débrouiller seul avec l'argent que m'a laissé mon père. Puis, mon père est mort et puis j'ai pris cette succession. Je dirige une société multimédia, télévision, radio, internet. Voilà ma vie. Je voyage beaucoup à cause de mes affaires, surtout à Londres. Il lui demande, vous n'avez pas intention de vous marier? Elle lui dit, peut-être. Si je trouve un homme qui me plaît, je ne veux pas de liaison comme ça. Il lui dit donc, le mariage. Elle lui dit « Oui ». Ils se dit, pour le moment, je ne peux pas. J'ai déjà ma femme. Après la soirée, ils sont partis. Il l'a raccompagnée jusqu'à chez elle. Elle l'a fait entrer chez elle et ont passé une partie de la nuit ensemble. Les jours passent, il se voit une fois par semaine, il est très heureux. Mais lorsqu'il revient chez ses parents, ça le rend morose de voir sa famille. De sa femme, il ne demande même plus de ses nouvelles. Ses fils ne s'en occupent pas. Eric a de très mauvaises notes. Il se dissipe trop à cause de ses aventures avec des filles. Cela l'amuse de les faire souffrir. Il se dit que puisqu'elles aiment ça, autant le leur faire pour rigoler. Il cherche toujours à leur faire du mal, à les mordre, les pincer, leur déchirer leurs vêtements. Les filles n'osent pas se plaindre à leur famille parce qu'elles ont honte. Puis avec ce visage d'ange, elle ne peut pas vraiment lui en vouloir. Elle pense que tous les garçons agissent comme ça. Eric agit comme ça, mais sans son plaisir suprême. Son plaisir suprême, il l'a avec son frère. Lui, ce n'est pas la même chose. Il ne s'en rend pas compte, mais peut-être qu'il a vraiment du plaisir avec son frère, même en lui faisant mal, parce que c'est un garçon. Il ne se rend pas compte qu'il a des désirs homosexuels. Et s'il s'en rendait compte, cela ferait beaucoup de mal. Ça le détruirait. Il n'est pas dégoûté d'être sadique, mais homo, oui. Peut-être sadique, c'est être un homme, même si l'on fait ça avec un homme. La preuve, beaucoup de personnes se disent hétérosexuelles, violent des homosexuels parce qu'ils les dégoûtent et détestent. Ils ne se rendent pas compte que violer, c'est un acte sexuel. Contraint, violent, mais un acte sexuel. et en violant un homosexuel, ils le font pour ce qu'ils détestent, soit disant le plus. La plupart des violeurs de ce genre sont, à mon avis, ceux, eux aussi, homosexuels, mais ne veulent pas que ce soit dit pour eux et les autres. Ils en ont honte et ça les dégoûte. Et pour assouvir, sans en avoir honte, ou qu'ils soient détestés, alors, par punition, ils violent, ils font un acte sexuel. C'est ce qui se passe avec Eric, qui joue au tortionnaire pour assouvir sans honte ses instincts homosexuels, parce qu'il a honte lui-même et honte que les autres le sachent ce qu'il est vraiment. Eric travaille mal au lycée parce que ses pensées sont prises par ses besoins. Frédéric, lui, a de très bonnes notes. Lui travaille beaucoup pour compenser les humiliations que lui fait son frère et il veut montrer qu'il est le plus fort. Les relations de Pierre et Carole prennent ses habitudes. Pierre est toujours amoureux d'elle, mais elle devient capricieuse. Décommande un rendez-vous, lui fait la tête. Pierre s'aperçoit qu'elle boit beaucoup. Tout ça la triste, mais il sait que faire. Elle lui dit un soir, j'en ai assez de cette liaison. Je ne veux pas être ta maîtresse. Je ne veux pas être la maîtresse de quelqu'un. Et il lui demande, et tu veux quoi? Elle lui dit, je veux officialiser notre amour. Je ne veux plus me cacher. Je veux vivre avec toi. Il lui dit, je ne peux tout de même pas la tuer. Elle lui dit, mais ça ne me gêne pas. Ça te regarde? Tu me manques, c'est pas moi qui le fais. Il lui dit, c'est ridicule ce que tu dis. Elle lui dit, ce qui est ridicule, c'est notre liaison. Moi, je ne veux plus. Il ne dit rien. Elle se lève et lui dit, tu m'énerves. Tu es une chiche molle. Allez, va-t'en. Il lui dit, mais Carole. Elle lui dit, va-t'en. J'en ai assez de cette liaison qui mène à rien. Allez, va-t'en. Oust. Du balai. Il lui dit, mais tu ne m'aimes plus? Elle lui dit, si je t'aime, la preuve, puisque je veux vivre avec toi pour de vrai. Il lui demande alors, qu'est-ce que je fais? Elle lui dit, tu pars et tu ne reviens que lorsque tu es libre. Allez, oust! La tête basse, voyant qu'il n'y a rien à faire, il se lève. Elle le mène vers la sortie de l'appartement. Il lui dit, si tu changes d'avis, tu m'appelles. Elle lui dit, je ne change jamais d'avis. Elle ouvre la porte et le pousse. Il se retrouve sur le palier, seul, triste, ne sachant que faire. Il se dit, elle va bien, elle. Je dois me débrouiller pour me séparer de ma femme. Et comment ? C'est moi qui dois me débrouiller. Une fois dehors, il est furieux et se dit que les femmes sont toutes les mêmes. Elles veulent tout, demandent tout, et c'est aux hommes à se débrouiller. Mais il ne veut pas perdre Carole. En arrivant chez lui, il retrouve son père dans le couloir. Il lui dit « Ça semble aller, elle est bien cette petite Carole. Félicitations, je me suis renseigné, la famille a des biens. Amuse-toi bien. » Pierre est furieux et lui demande « Qui t'a parlé de Carole ?» Le père lui dit « Je suis allé chez Franblanc pour voir l'avancement de nos affaires. » J'ai rencontré Judith, elle était avec Harold. Elle m'a dit qu'elle t'avait vu avec cette fille. » Pierre furieux lui demande « Et de quoi elle se mêle cette Judith ?» Auguste lui dit « Ne te mets pas en colère, elle trouve très bien que tu sois avec cette fille. Ah, c'est dommage que tu ne sois pas libre. » Pierre lui dit « Et non, je ne suis pas libre, bonne nuit. » Et il va à sa chambre. Il se dit que décidément, tout le monde est du côté de cette fille. Et cette Judith, elle n'est pas jalouse. Lui, au contraire, bien au contraire, elle le met dans les bras de Carole, peut-être pour se débarrasser de lui. Pendant une semaine, il attend que Carole lui fasse signe. Rien. Ça l'énerve. Et il est incapable de faire quoi que ce soit. De Gerlas est très inquiet. Il a peur qu'elle ne veuille plus de lui. Un soir, il lui téléphone dans le bureau de son père. Allô? C'est moi, Pierre. Moi, Pierre. Bonjour, Pierre. Tu as quelque chose à me dire ? Il répond, non, j'aimerais te voir. Elle lui dit, ta situation a changé ? Il lui dit, non. Elle lui dit, eh bien, tu n'as rien à me dire. Il lui dit, mais tu es insupportable. Comment veux-tu que je fasse pour divorcer ? Tout le monde serait contre nous. Elle lui dit, et si nous vivons comme ça ? Aussi les gens seront contre nous. Moi, je ne veux pas. Il lui demande, alors que faire? Elle lui dit, je ne sais pas, c'est à toi de voir. Allez, à bientôt peut-être, pour de bonnes nouvelles. Il lui dit, je t'aime. Elle lui dit, moi aussi. Pourquoi suis-je si exigeante avec toi? C'est parce que je tiens à toi et je t'aime. Allez, je te quitte. Et elle raccroche. Il se dit, elle m'aime, mais ne veut pas me voir. Carole rêve de mariage. D'amant, elle n'en veut pas. Mais elle ne sait pas que son désir de mariage est une lubie. Et que peut-être qu'une fois mariée, elle rêvera d'autre chose, d'une autre vie. C'est une instable, et c'est pour ça qu'elle a décidé d'ennuyer Pierre pour cette histoire de mariage, pour mettre plus de piment à cette relation avec lui. Lui, Pierre, prend la chose très au sérieux, et se casse la tête pour résoudre ce problème, se débarrasser de sa femme. Pour se marier avec Carole. Mais comment? Lorsqu'il voit le médecin sortir de la chambre de sa femme, il lui demande « Comment va-t-elle ?» Le médecin croit lui faire plaisir en lui disant « Elle se maintient. » Pierre, déçu, demande « Combien de temps ?» Le médecin lui répond « Ne vous faites pas de soucis, il y en a pour un bon bout de temps. » Pierre furieux lui dit « Eh bien, merci beaucoup, docteur. » Le docteur se dit ses parents, si ses parents savaient, le pauvre homme, que Mi souffre, et eux veulent que sa belle-fille en finisse le plus vite possible. Mais le médecin est malin, comme il reçoit une bonne somme chaque fois qu'il va voir la malade. Il n'est pas pressé qu'elle en finisse avec la vie. Il fait construire une maison et a besoin d'argent. Pierre sait que ça ne sert à rien de téléphoner à Carole. Elle ne changera pas d'idée. Il reste noir et broie du noir. Il est morose le soir et broie du noir. Père lui dit, tu ne sors plus? Il lui répond, non. Son père lui dit, dommage, elle était bien. Pierre est furieux. Les jours passent. Il n'y a toujours pas de nouvelles de Carole. Il se dit que plus le temps passe, plus elle risque de rencontrer une autre personne, un autre homme. Et ça le rend fou de savoir qu'elle risque d'être à un autre. Le soir, il sort et va mélancoliquement jusqu'à chez elle. Là, il attend. Il attend que peut-être il la verrait. Et qu'elle lui dise de monter chez lui, de monter chez elle. Mais non, la rue est désespérément vide. Il s'en retourne, le corps gros. Les jours passent ainsi. Il pense constamment à elle et en est discret. Il fait son travail en faisant des erreurs. Son père s'en irrite. Il se dit qu'il faut absolument qu'il voie cette fille, autrement il va dépérir. Amélie, lorsqu'elle est dans son lit avec son mari, lui dit « Si l'autre pouvait dépérir, ce serait une bonne chose. » Elle nous ennuie, celle-là. Elle est de trop, son mari lui dit. Tu as raison. Et ses deux fils, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va être un poids pour les deux époux. Amélie lui dit, on pourrait peut-être les mettre en pension. Son mari lui dit, cela n'arrangerait pas tout. Il resterait, malgré tout, le fils du père. Cela risque de nuire à notre fils. elle peut le lui reprocher et lui dire constamment « Oui, tes fils !» Elle lui demande « Oui, mais que faire ?» Il lui dit « Peut-être que le temps, le destin, va nous en débarrasser. Leur mère est presque mourante, dit déjà beaucoup. » Pierre se demande comment il peut se débarrasser de sa femme. Ce n'est pas facile. Elle ne veut pas mourir. Il ne peut divorcer. Il se dit la solution la meilleure, c'est qu'elle meure. Mais comment ? Les jours passent, il est de plus en plus déprimé, car il aime vraiment Carole. Il aime les femmes qui ont du caractère, qui sont belles, qui font rêver. Et lorsqu'on a une liaison avec elles, on a l'impression de vivre une aventure comme au cinéma. Ce qui lui fait rechercher ce genre de femme, le lui fait préférer, c'est aussi parce qu'elles sont le contraire de ce qu'est sa femme. Inconsciemment, ça doit jouer beaucoup. Car ça lui permet de vivre une autre histoire qui n'est pas la copie de l'autre. Il veut effacer ce qu'il vit pour recommencer à zéro. Pourquoi la vie, elle-même, l'étouffe entre sa femme, qui n'est pas vraiment sa femme, parce qu'il ne l'aime plus, il n'a plus de rapport intime avec elle. Elle, c'est une autre, parce qu'elle est devenue une chose fragile qui ne fait rien à une vie végétative. Une chair douloureuse. Ses parents qui l'étouffent et le traitent comme un enfant, sans protester, il vit avec eux. Son père en a fait son salarié, surtout sa mère qui le traite comme un tout petit, lui un adulte, père de famille. Ses fils, qui ne lui sont rien, il ne ressent absolument rien pour eux, pas le moindre sentiment et même devoir. Il les voit pas, se moque de ce qu'ils font. Sa fibre paternelle ne s'est absolument pas formée. Peut-être aussi est-ce dû parce qu'il lutte pour devenir adulte? Des fois, il se demande comment il en est devenu là. Pourtant, sa vie avait bien pris un bon départ. Bonnes études, l'étranger, indépendance, mariage contre la volonté de la famille. Mais ce qui lui a permis de devenir adulte, l'a ramené en arrière, a fait le contraire de ce que ça devait faire. Et puis, tout est allé de travers. Plus d'emploi, maladie, enfant et le retour à la case départ. Pourquoi cet échec ? Ça a été dû à cause de sa femme, qui n'était pas assez forte. Oui, c'est sa femme, la coupable. D'ailleurs, les femmes peuvent être un bon ange ou le mauvais ange de l'homme. Oui, c'est de sa faute à elle. Maintenant, il veut vivre une vie plus normale. Et pour cela, il veut se défaire de ses chaînes. Quitter ses parents. Et pour cela, il faut se défaire de sa femme. Parce que tant que sa femme sera en vie, ne pourra pas quitter ses parents. Qu'est-ce qu'il fera seul avec une femme malade? C'est impossible. Mais comment sa femme peut-elle disparaître de sa vie? Parce que c'est bien ça. Une femme, ce n'est pas facile. Si c'était sa maîtresse, adieu, et voilà, sa fille, on la marie, mais sa femme. Le divorce dans ces conditions, c'est impossible. Elle deviendrait une sainte martyre. Et moi, je serais mis en quarantaine, sans compter ma famille qui eux aussi seraient maltraités. Je pourrais la mettre dans une maison et dire qu'elle a besoin de soins particuliers qui ne peuvent se faire dans une maison. On pourrait le faire. Et si Carole n'était pas si têtue, elle accepterait après de vivre avec moi. Mais non ! Carole, elle veut vivre en femme mariée, officiellement mariée. Qu'est-ce que ça leur apporterait de plus ? Rien ! Elle réfléchit pendant des jours et des jours, et même la nuit. Amélie dit à son mari, « Je crois qu'il faudra prendre des décisions. » Auguste dit, « Cette Carole, il l'a dans la peau. » Qu'il prenne une décision, mais qu'il fasse pas de bêtises. S'il demande le divorce, nous sommes perdus. Perdus. Adélaïde continue à écrire à Eric. Elle l'aime toujours et lui dit qu'il n'y a pas de garçon comme lui. Qu'elle comprend tout à fait bien sa façon d'agir avec elle, que c'est dû à sa timidité et lorsqu'il sera plus sûr de lui, ça lui passera. À Lyon, elle s'ennuie. C'est triste, sale. Les jeunes sont ringards. Tu te rends compte? Ils sont encore à être 68 ans, comme il y a 60 ans. Eric se dit qu'elle a envie de me voir parce que je lui appelle la porte du plaisir. Elle se trompe si elle pense que j'agis avec elle et les autres filles comme ça. C'est parce que je suis timide. C'est simplement parce que ça me fait plaisir. Moi, ce que j'aime le plus, c'est mon frère. Oui, ce qu'il aime le plus, c'est son frère. Il peut se passer de lui. et pour éviter qu'il ne lui échappe, il le fait souffrir pour qu'il soit sa chose. Frédéric s'enferme dans ses études. Il veut être le plus fort, le plus intelligent et montrer aux autres qu'il n'est pas comme eux. Antoinette, dans sa chambre, se dit qu'elle n'est plus jeune, ni vraiment une mère, ni une femme. Elle ne vit plus, ne s'occupe plus de sa famille. Même si son mari venait la voir, elle ne pourrait plus être sa femme. Elle se demande ce qu'elle fait sur cette terre. Il lui arrive de penser à ce qu'elle a vécu. Une enfance douce, calme. Elle a été élevée comme une petite fille modèle. On ne lui a rien fait apprendre. Ses parents, des cousins éloignés de la famille Pontois, le grand industriel qui a failli être prix Nobel de la paix, elle ne l'a pas connu, il était mort depuis longtemps, puis sa famille ne fréquentait pas cette illustre branche. Lui, son père, en parlait souvent et disait à sa fille « Ah ! Le nom que tu as, tu n'as pas besoin de diplôme. C'est plus qu'un diplôme. » Son père, un bel homme, grand, mince, cheveux épais, moustache, châtain, était chimiste dans une petite entreprise près de Paris. Sa mère ne travaillait pas. Elle était grande, mince et blonde. Aimant les choses simples comme peindre et jouer du piano. Ils habitaient une petite villa du côté de Versailles, vivant d'une façon modeste, mais pas pauvre et heureux. Et puis son père est mort lorsqu'elle a eu 15 ans. Une des chaudières de l'entreprise où il travaillait a explosé et il en est mort. Sa mère ne s'est jamais remise de son chagrin. Elle est restée en deuil jusqu'à sa mort. Elle est morte d'une angine de poitrine lorsqu'elle a eu 18 ans. Seule mais majeure, avec un petit revenu, elle a vécu dans la maison de ses parents. Elle attendait que le destin lui fasse connaître son mari. Elle ne vivait que dans cette attente. Elle avait été programmée pour ça. Et elle a rencontré Pierre. Elle l'a aimé de suite et s'est aimée elle s'est donnée à lui. Elle aurait pu être heureuse avec lui, même malade, s'il n'y avait pas eu ses parents. Ses parents, ils ne l'ont pas aimée de suite. Mais, même avant de la connaître, elle a senti de suite, elle a compris qu'elle était pour eux la petite fille pauvre qui leur prend leur cher fils. Pierre a eu un beau geste et c'est pour elle qu'il a tout quitté, famille, avenir. Et elle, elle a fait une grossesse heureuse et s'est retrouvée dans la gueule du loup en y amenant Pierre. Puis c'est devenu lorsque leur contact et elle sont devenus loups et elle est restée mouton. Et ses enfants, ah mes pauvres enfants, elle n'a pas pu les élever, elle n'a pas eu le temps, et eux n'ont pas eu le temps de l'aimer, la pauvre mère. La belle-mère a séparé la mère de ses fils, mais elle n'a pas fait des loups comme le père. Non, parce qu'elle les déteste aussi, parce qu'ils sont le fruit d'un mariage qui était une union pas digne de leur fils. Alors malgré qu'ils ont éloigné les enfants de leur mère, elle les laisse moutons. Car un loup a toujours besoin de moutons. Il faut penser à l'avenir. Les enfants n'ont plus de mère. Éloignés de leur mère et à la merci de la belle-mère et du beau-père. Antoinette aimait faire quelque chose pour eux, mais quoi? Elle est si faible. Il faudrait qu'elle parte avec eux. Si Pierre pouvait être de son côté, elle pourrait peut-être y arriver. Mais Pierre est de toute évidence de leur côté. Et cela fait des semaines qu'elle ne l'a pas vu. On dirait qu'il manigance quelque chose. Mais quoi? Il veut peut-être préparer le divorce, mais elle se demande où elle irait. On frappe à la porte de la chambre. Elle dit « Entrez !» C'est le médecin qui entre. « Bonjour, madame. »«
Bonjour, docteur. »
Le docteur s'approche. Elle lui dit
« Vous êtes surprise de me voir encore en vie, docteur ?»
Il lui dit « Mais non, madame. »
Elle lui dit « Mais si. » Et je me demande ce que je fais encore ici.
Il met sa valette sur la table. Il ouvre pour prendre l'appareil, pour lui prendre la tension.
va vers elle. Je soulève la manche pour lui prendre l'attention. Elle lui demande, j'en ai encore pour combien de temps de tort? Il lui dit, je ne peux le savoir, personne ne peut savoir, tant qu'une personne n'est pas guérie. Elle lui dit, je ne vous parle pas de guérison, mais de mourir. Il lui dit, ne dites pas de bêtises, on ne meurt pas comme ça, vous êtes jeune. Elle lui dit, pourtant je suis très malade. Oui, mais ce n'est pas parce que l'on est bien malade que l'on va mourir. Les maladies peuvent être très longues, et voilà tout. Elle lui dit, oui, mais je crois que la mienne ne durera pas, se terminera pas par une guérison. Il lui dit, ne dites pas de bêtises. Il a fini de prendre l'attention. Elle lui dit, ça va. Elle lui dit, ça va quoi? Il lui répond, le mal. Il va pas plus mal. Elle lui dit, je suis contente pour le mal. C'est bien pour lui. Il sourit et lui dit, vous avez de l'humour, c'est que ça va mieux. Allez, je vous laisse vous reposer. Au revoir. Et il la quitte. Elle se dit, il vient, c'est pour prendre son chèque. Et puis, donner bonne conscience à la famille. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.